Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Roem.
L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile, avec à la une Donald Trump, qui a retrouvé hier ses partisans, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que prévu pour son premier meeting électoral après 3 mois de crise de coronavirus. Le président américain a parlé à beaucoup de sièges vides, et vous l'entendrez, c'est peut-être à cause de jeunes qui auraient commandé des tickets sans vouloir vraiment s'y rendre. En Arabie Saoudite, la plupart des restriction contre le coronavirus a été levée ce matin, mais le couvre-feu reste en place à la Mecque. Et puis des camions de pompiers tout neufs, promis aux villes où l'on votera beaucoup le week-end prochain. En Pologne, le gouvernement espère un taux de participation élevé la semaine prochaine au premier tour de la présidentielle.
Le journal en français facile.
Il attendait 20 000 personnes dans la salle où il s'exprimait, mais les pompiers de Tulsa, dans l'Oklahoma, évoquent plutôt 6 200 spectateurs. Il avait prévu de faire un deuxième discours pour ceux qui ne pourraient pas rentrer, mais quelques minutes avant, la scène extérieure a été démontée face à une place vide. Donald Trump a relancé hier sa campagne électorale pour se faire réélire à Tulsa, dans l'Oklahoma, devant une salle à moitié vide. Le président et sa campagne ont accusé les médias et ses opposants qui manifestaient non loin de là. Mais depuis ce matin, la presse américaine évoque une autre explication. Donald Trump aurait été victime d'un sabotage d'internautes. Loubna Anaki.
Le mot d'ordre aurait été donné sur le réseau social TikTok, très populaire chez les jeunes de moins de 25 ans. Une consigne, commander en masse des tickets pour le meeting de Donald Trump sans y aller le jour J. Ce matin, des dizaines de vidéos montrant des internautes en train de se moquer du président américain ont été partagées sur les réseaux sociaux. On y voit certains prétexter une séance de bricolage ou une balade avec leur chat comme raison de leur absence hier. Une campagne très bien organisée et soutenue par les millions de fans de K-pop, la pop sud-coréenne. Ils étaient déjà très investis ces dernières semaines dans le mouvement Black Lives Matter. Selon le New York Times qui reprend l'information, ces jeunes maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et leurs algorithmes et savent donner de la visibilité à leur campagne internet. Le tout est tout de même resté discret pour éviter d'éveiller les soupçons des organisateurs du meeting avant sa tenue hier. Si ces jeunes estiment avoir saboté le retour en campagne de Donald Trump, il est difficile de mesurer l'effet exact de leur action. Ce qui est certain, c'est que le président américain, qui s'était vanté du fait que plus d'un million de personnes avaient demandé des tickets pour son meeting de Tulsa, a moyennement apprécié de se retrouver devant une salle à moitié vide. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et malgré les sièges vides, Donald Trump a fait le spectacle, comme d'habitude, et créé la polémique, comme souvent. Après 4 semaines de manifestations aux États-Unis, il s'est une nouvelle fois présenté comme le président de la loi et de l'ordre et s'en est pris à son adversaire à la présidentielle, Joe Biden, qu'il qualifie de marionnette de la gauche radicale et de la Chine et qu'il accuse de n'avoir jamais rien fait en 50 ans de vie politique. Alors que son pays est toujours le plus touché au monde par le coronavirus, le président américain a déclaré qu'il avait demandé aux autorités sanitaires de ralentir la cadence des dépistages pour éviter que les chiffres ne grimpent trop vite. La Maison-Blanche assure aujourd'hui qu'il plaisantait. De l'autre côté du monde, l'Arabie Saoudite a levé ce matin les restrictions mises en place contre le coronavirus. Le royaume enregistre pourtant un nombre élevé de nouveaux cas chaque jour. Parmi ses voisins du Golfe, l'Arabie Saoudite est d'ailleurs le pays le plus touché par la pandémie, avec plus de 150 000 contaminations et aussi plus de 1 200 décès liés à la maladie. Les précisions de notre correspondant dans la région, Nicolas Quérodrin.
L'Arabie Saoudite se prépare à un retour à la normale. Depuis ce matin, les autorités saoudiennes ont en effet levé le couvre-feu qui avait été mis en place le 8 avril dernier dans les grandes villes du royaume. Les activités économiques et commerciales ont donc été autorisées à reprendre normalement, en respectant toutefois certaines conditions comme l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Les mosquées de la ville sainte de la Mecque peuvent elles aussi accueillir de nouveau les fidèles après 3 mois de fermeture. Cette décision intervient quelques semaines avant le début du grand pèlerinage des musulmans prévu fin juillet et qui attire chaque année des millions de fidèles. Le ministre du Hajj, Mohamed Banten, avait pourtant demandé en avril dernier aux musulmans qui souhaitaient se rendre à la Mecque ou à Médine d'attendre avant de réserver leur voyage, car les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont toujours fermées en Arabie Saoudite. Mais la semaine dernière, un porte-parole de l'autorité générale de l'aviation civile a déclaré que la réouverture est actuellement examinée. Nicolas Quérodrin, Dubaï, RFI.
Chez le voisin yéménite, les séparatistes du Sud ont pris aujourd'hui le contrôle de l'île de Socotra. C'est un point stratégique important, notamment pour sa présence face à la Corne de l'Afrique, près de l'entrée sud de la mer Rouge et d'importantes routes commerciales. De quoi affaiblir encore le gouvernement en guerre contre les rebelles houthis du nord du Yémen. Les séparatistes et le pouvoir yéménite ont de plus en plus de mal à appliquer l'accord de partage du pouvoir dans les zones qu'ils contrôlent. Leur accord de paix s'est effondré fin avril et les séparatistes ont proclamé dans la foulée l'autonomie du sud du pays.
Le journal en français, facile.
En Pologne, il ne reste plus qu'une semaine avant le premier tour de la présidentielle et l'écart se resserre face à face. Le président sortant conservateur, favori pour sa réélection, et son principal concurrent libéral, le maire de Varsovie. Au premier tour, Andrzej Duda devancerait de 10 points Rafał Trzaskowski selon les sondages, mais au second tour, les deux hommes sont au coude à coude. Alors pour faire la différence, le gouvernement, allié du président, use de tous les moyens pour convaincre les électeurs déjà d'aller voter et si possible pour le chef de l'État jusqu'à offrir des camions de pompiers aux villes où l'on votera le plus. Explication Thomas Giraudeau.
Les autorités le savent, la clé du scrutin est dans ces campagnes et ces petites villes de moins de 20 000 habitants, des zones périphériques où les conservateurs au pouvoir et Andrzej Duda ont construit leur récente victoire. Le PiS y a obtenu ses meilleurs scores, plus de 50% des voix aux législatives l'an dernier, et le chef de l'État ferait de même dès le premier tour de la présidentielle, selon des sondages. Alors il faut pousser le plus possible de ces électeurs aux urnes, quitte à user des moyens publics. Avec Bitva au Vosgé, la bataille pour les véhicules, le ministère de l'Intérieur offre ainsi un camion de pompiers tout neuf à 16 petites communes, une par région, où le taux de participation au présidentiel sera le plus élevé. L'exécutif se justifie, ces petites villes n'ont souvent pas les moyens d'acheter de tels équipements, ni d'organiser des campagnes pour inciter leurs habitants à aller voter. Mais l'opposition et des commentateurs y voient une manœuvre. L'ancien chef de la commission électorale parle d'actions inappropriées et l'ex-premier ministre socialiste Marek Bełka dénonce le fait qu'un véhicule qui sauve des vies soit utilisé à des fins politiques. Thomas Giraudeau, Varsovie, RFI.
Et du côté de la Serbie, on votait aujourd'hui pour les législatives. Le parti du président Aleksandar Vučić, le SNS, pourrait obtenir 50% des voix selon les derniers sondages. Les principaux partis avaient appelé à boycotter le scrutin, c'est-à-dire à ne pas aller voter. Mais une vingtaine de petits partis se sont quand même présentés. À la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation était estimé à 45%. C'est 7 points de moins qu'aux législatives de 2016. Et puis, lui était une grande figure de la gauche israélienne et un spécialiste du fascisme. Zev Sternel est mort aujourd'hui à 85 ans. Militant engagé pour la paix avec les Palestiniens, il n'hésitait pas à critiquer son pays et provoquait souvent la colère. À Jérusalem, son portrait, signé Michel Paul.
Originaire de Pologne et l'un des rares rescapés de la Shoah dans sa famille, c'est seul que Zev Sternel s'installe en Israël après des études secondaires à Avignon, en France. Officier dans l'armée israélienne, sioniste convaincu, il devient professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et se spécialise dans l'étude du fascisme et notamment de ses racines françaises. Depuis l'occupation des territoires palestiniens, Zev Sternel est très critique de la politique de son pays. Il est notamment l'un des créateurs du mouvement Shalom Arshav, la paix maintenant, et dans le quotidien libéral Haaretz, il publie régulièrement des articles souvent controversés. Si les Palestiniens faisaient preuve de plus de clairvoyance, ils concentreraient leurs actions contre les colonies au lieu de s'en prendre à des femmes et à des enfants en territoire israélien, écrit-il notamment en pleine période d'attentat. Et dans une tribune au quotidien Le Monde, il affirme « En Israël pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts ». En septembre 2008, une bombe posée par un extrémiste juif explose à Jérusalem devant le domicile de Zev Sternel. Mais par chance, l'historien n'est que très légèrement blessé. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver et le lire sur le site d'RFI Savoir. On s'y retrouve quand vous voulez.